Vous écoutez RTL.
Maison, jardin, cuisine, brocante.
Avec Bernard Poiret sur RTL.
Il est 9h39.
Maison, jardin, cuisine, brocante, Thierry Églantine, Laetitia et Sébastien, bonjour.
Eh bien, bonjour. Bonjour Bernard,
bonjour à Thierry, tous. Thierry, Denis, bien des amoureux des fleurs n'ont pas le temps de s'occuper de leur jardin.
Ah ben c'est, moi. C'est moi.
Aussi, pareil. Et donc, vous rêvez d'une fleur vivace, oui. Sans soin, oui. Et pourtant superbe, du printemps, oui. Jusqu'à la veille
toute
de votre départ en vacances d'été.
Moi, je veux qu'elle aime mes sols calcaires. Pourri.
Et moi, je veux qu'elle soit jolie à la rentrée, même si personne n'a pu la
rentrer. Moi, je veux qu'elle chante la Carmagnole.
Une dromadaire qui ne boit pas.
Oui.
Si
oui.
Sobe qu'elle pousse dans les joints des vieux murs de
oui.
Pierre.
Oui.
Une vivace ravissante quand on rentre fatigué du boulot.
Et ben, moi, j'ai encore rien demandé, mais si c'est pas abusé, j'aimerais bien qu'elle attire aussi les papillons.
Églantine, entre nous, vous me demandez un petit peu la lune dans un petit seau. Mais, j'ai quand même peut-être la plante miracle qu'il vous
faut. Non, je ne crois pas. Et en tout cas, c'est forcément une plante rarissime.
Pas du tout, Bernard. Ma plante vivace sans défaut, c'est une bonne vieille fleur de grand-mère. Une valériane, dont le nom compliqué, c'est Centranthus ruber. Elle a fait le bonheur des jardins à la campagne depuis le Moyen-Âge.
Oui.
Elle existe en rose doux, en blanc et en rouge vif. Alors,
très bien, ouais.
J'ai pris une photo dans mon village, à La Roche-Millet, dans le Morvan.
Ah, je vois, oui,
on les voit en
d'accord.
Mélange, oui. Toutes les trois, et c'est vraiment au pied d'un vieux mur, au bord de la route. C'est l'opposé du jardin Bichonnet.
Ah, on dirait des fleurs de lilas.
Absolument.
Hein.
Eh ben c'est très
ça
bien vu, car cette valériane est aussi appelée lila d'Espagne.
Ah, bah voilà. Sauf que je vois pas le papillon là.
Ah, oui.
Il va arriver bientôt, Églantine. Ah. Il fera un petit peu plus chaud. C'est le plus étonnant des papillons de France.
Oui.
Sa très longue trompe boit le nectar des fleurs et il fait du surplace en l'air devant la fleur. Ses ailes battent si vite qu'on ne les voit pas. On dirait un colibri.
C'est un papillon sphinx, non ?
C'est ça.
Tout à fait, Bernard. Oui. Le moro sphinx. Et ce moro sphinx aime tellement ma valériane qu'on ne l'imagine pas l'un sans l'autre.
Bon, dites-moi, c'est vachement bien la valériane, mais il y a quand même un peu d'entretien, allez.
Vraiment, vraiment pas grand-chose.
Moi, je suis feignant,
hein. Je vous le garantis, ouais. Elle va fleurir sans soin chez vous, non-stop, de la mi-mai à la mi-juillet. Juste après le grand départ des vacances d'été, on prend sa cisaille et on coupe tout à 10 cm du sol.
Oh. Mais il n'y a plus rien après.
Eh bien, c'est là le secret. Raser ma valériane n'a pas besoin du tout de boire en août.
D'accord,
elle se borne à faire une petite rosette de feuilles, qui deviendra énorme et pleine de fleurs à la rentrée, pour peu qu'il pleuve un peu. Et ces fleurs de septembre, qui sont ravissantes, vous allez laisser le plus longtemps possible pour qu'elles montent à graines, ce qui fait qu'il y aura plein de petits semis l'année prochaine, qui seront des beaux cadeaux pour vos amis.
Ah, ça me plaît beaucoup, moi, votre histoire de valériane.
Ah oui,
c'est humble, ça coûte pas un rond, ça se trouve dans toutes les pépinières, ça vaut quelques euros seulement, ça résiste à tout. Et en plus, ça fait des papillons.
Mais oui, ça fait un peu fleur de mémé,
moi ça me plaît. Moi ça me plaît, je dois vous avouer. Églantine Émeillé, avec vous, nous prenons l'intercité pour Besançon. Il y a là-bas régulièrement des puces.
Oui, c'est bien ça. Les halls immenses de Micropolis se mettent à l'heure d'été et organisent leur puce d'été ce week-end. C'est un véritable festival d'objets en tout genre. C'est vraiment à l'image de ce qu'on trouve en ce moment sur la plupart des brocantes. Hein.
Vintage.
Du vintage. Et encore du vintage.
J'espère qu'il y a quand même autre chose que du vintage.
Mais oui, parce que c'est l'été. Alors on trouve aussi des meubles et des objets pour le jardin.
Oui.
Et là, on peut trouver des objets plus anciens, entre bassines en zinc, bancs, chaises en fer forgé du début du 20e siècle, sans oublier la vaisselle en porcelaine, les luminaires de différentes époques. Ce sont de vraies puces. Tout est possible. Même les mâles de nos grands-pères, on fouille, on patiente minutieusement. C'est obligatoire.
Ah, les mâles anciennes, non mais ça c'est juste magnifique. Moi ça fait longtemps que j'en cherche une.
J'en rêve.
Une qui tient debout, vous savez, qui fait un peu dressing.
Les wardrobes, là, vous avez raison Bernard, ça coûte deux bras. Donc faut pas trop rêver, Laetitia. C'est assez rare. Hein.
D'accord.
Et elles sont chères. Non, en ce moment, celles qui ont la cote, visiblement, ce sont les mâles militaires. On peut encore en trouver qui datent du premier conflit mondial, mais ce sont surtout celles qui vont se généraliser après la Seconde Guerre mondiale, qui se chinent très facilement. On en trouve en bois, en métallique, en osier. Elles sont abordables financièrement. Une centaine d'euros pour des mâles en bois qui ont gardé leurs inscriptions d'origine.
Quand vous dites les inscriptions d'origine, vous parlez de quoi exactement ?
Alors, le grade, le nom du militaire, celui de son unité sont inscrits sur la malle. Et ce sont des détails qui ont leur importance et qui font monter un peu les prix. Et évidemment, plus le grade est important, plus l'unité est prestigieuse, plus la malle est chère.
Évidemment.
Églantine, moi j'en ai une petite allemande.
Oh non, c'est vrai ?
Pour munitions. Alors, j'imagine qu'il va y avoir plein de mâles militaires différentes pour des usages
Et c'est ça qui est très amusant à chiner. Effectivement, en dehors de la grosse malle qui contenait le matériel du soldat, il y a la petite cantine militaire, la boîte à pharmacie, les boîtes à munitions, moi, que je trouve très sympa à détourner en boîte de rangement, de ce que vous voulez.
Oui. Et dites-moi, est-ce qu'il y a des choses qui viennent du côté américain, des GIs ?
Oui, j'en ai vu. J'ai vu des malles cantines destinées au transport des couverts et de la vaisselle émaillée des officiers en campagne. Alors, en gros, ça ressemble à une grosse boîte en bois, pourvue de compartiments pour les assiettes et les verres, et puis d'une boîte intérieure qui se soulève avec le couvercle. Je trouve que c'est très bien à recycler aussi en boîte de peinture, par exemple.
Bonne idée.
Et alors moi, ce que j'aime vraiment, le must, ce sont les malles bureaux de l'US Army. Vous posez la malle à l'horizontale, vous l'ouvrez, et hop, le panneau du dessus devient la table de travail, et face à soi, tous les éléments d'un petit secrétaire.
Génial.
Bon, je reconnais qu'on n'en trouve pas tous les jours, mais c'est le principe de la Chine. Il faut chercher à avoir l'œil vif.
Il y a les lit-camps militaires, ils sont super.
En fait, tous ces objets sont regroupés sous le terme générique de militaria.
Exactement.
Brocante d'été de Besançon, parc des expos et des congrès, ça coûte quelques euros. Pour
voilà, mais il y a tout ce qu'il faut, c'est de 9h à 18h,
foncez, je pense qu'il y a des merveilles à trouver là-bas. On s'arrête un petit instant, si vous le voulez bien, et ensuite on parle de la chaux, qui est un matériau extraordinaire en matière de décoration, on va nous dire.
Je confirme.
Et nous rappeler, surtout Laetitia Nallet. Quant à Sébastien Demorand, il a décidé de se travestir aujourd'hui et de s'appeler Norma. C'est ainsi, à tout de suite.
Maison, jardin, cuisine, brocante sur RTL.
9h47.
Suite et fin de Maison, jardin, cuisine, brocante. Laetitia Nallet, faisons-nous ce matin du bien avec de la décoration écologique.
Ah oui, c'est chouette de repeindre sa maison, mais c'est pas une raison pour s'intoxiquer. Et s'il y a bien une façon de peindre ses murs 100% écolo, c'est avec la chaux.
La chaux.
Alors attention, j'ai bien dit la chaux.
Pas la chaux vive, la chaux.
Non, j'ai bien dit la chaux, pas la peinture avec de la chaux ou un produit à base de chaux. Méfiez-vous de ces appellations créées pour vous en papaouter. La chaux toute seule, c'est du 100% naturel.
Alors rappelez-nous ce que c'est exactement. La chaux.
C'est de la craie.
C'est de la pierre, de la roche calcaire qui va être ramassée, concassée, puis lavée à l'eau du fleuve et enfin cuite lentement dans un four à bois pendant 5 à 6 jours. Du coup, cette chaux vive va devenir éteinte en passant 9 mois minimum dans de l'eau.
C'est top écolo, on a compris. Moi, ça m'intéresse. C'est bien pour l'extérieur donc...
Oui, la chaux protège la pierre du bâtiment. C'est un matériau qui laisse respirer les murs tout en étant étanche. Si vous avez une maison ancienne, par exemple, sans fondation, là, ça veut dire une maison toujours un peu humide, la chaux pourra aussi être une solution pour pallier un peu à ce problème.
Alors, chez moi, là, j'ai de la chaux à l'extérieur et c'est top. Est-ce que je pourrais aussi m'en servir pour l'intérieur ?
Mais oui, mais bien sûr, en plus, c'est super déco. Alors, c'est parfait dans une salle de bain, c'est bien dans une chambre.
Ça va devenir
c'est,
déco c'est chez
bien
vous,
dans toutes les pièces.
Accrochez-vous.
Aucun produit chimique. Alors, attention, c'est pas comme une peinture. Hein. C'est-à-dire que la chaux ne s'applique pas au pinceau, mais avec une taloche ou avec un platoir. Elle se dépose comme un enduit.
Oui.
Pour l'intérieur, ce sera une sous-couche et après, il y a une ou deux couches fines avec lesquelles on peut faire des effets décoratifs et ça, c'est super.
C'est d'accord.
Aujourd'hui, ce qu'on aime, c'est l'effet mat et lisse, alors qu'autrefois, ce qu'on aimait, c'était les effets texturés, donc on a changé. Un mur à la chaux, franchement, à l'intérieur, ça peut juste être magnifique.
Donc, il n'y a aucun défaut.
C'est pas très facile d'obtenir des couleurs très sombres ou très vives avec la chaux. Un rouge champ ne va pas être possible, à moins d'appliquer sur la chaux una velatura. C'est un glacis, en fait, qui fixe et rehausse la couleur sans bloquer la respiration de la chaux.
Et les prix de ce produit magique ?
Alors, pour prendre l'exemple de trois matons, chez eux, à partir de 1,30€ du mètre carré pour un badigeon.
C'est vraiment pas cher.
Ça peut monter jusqu'à 14,30€ pour les enduits de chaux les plus fins.
En tout cas, toute la gamme de production de ces gens-là d'Aix-en-Provence, c'est sur le site les3 avec un tiret puis le chiffre maton.com. Merci beaucoup Laetitia. C'est vrai que dans le sud de la France en particulier, quand on voit ces façades à la chaux, on se dit waouh. Sébastien Demorand, hier nous avions droit à quelques courgettes avec une chouette salade presque estivale. Ce matin, place aux aubergines. Je ne sais pas toujours vraiment quoi faire des aubergines, je dois vous l'avouer.
Bernard Fastoche, comme d'hab, une petite recette sublime et facile, avec une fois de plus, c'est pour vous Églantine, je suis désolé, un beau clin d'œil à vos racines italiennes. Vous connaissez peut-être cette préparation fabuleuse que je ne croise pas si souvent, moi, dans les petites trattoria parisiennes que je fréquente, la pasta à la Norma.
Si, on en voit pas mal.
On révise ?
Avec des aubergines.
Allez, on révise. Voilà, c'est ça. Alors, dans le petit panier hebdomadaire que vous avez chez vous, Églantine, il y a évidemment quelques belles petites aubergines bien fermes. Il y a les premières tomates fraîches de la saison pour faire de la sauce. On a de l'ail, on a du basilic frais. Le seul petit point, un tout petit peu compliqué, c'est que cette recette nécessite un ingrédient qui n'a pas forcément été facile à trouver pendant ces dernières années. Mais j'ai noté que de plus en plus d'épiceries fines italiennes le proposent désormais. C'est ce qu'on appelle la ricotta salata.
Moi, je connais la ricotta, mais salata, je ne sais pas, ça veut dire quoi ?
Salée.
Exactement. La ricotta, vous le savez, c'est ce fromage au lait caillé, que ce soit de bufflone, de brebis, de chèvre, de vache, peu importe. Et quand on va le saler, justement, il va durcir. farcir. Et donc, on va pouvoir venir le râper comme ça à la fin, en gros copeaux.
C'est pas le pecorino ?
Pasta. Non, rien à voir. En revanche, si vous ne trouvez pas de ricotta salata, vous pouvez prendre un classique pecorino.
Moi, je mets toujours du pecorino.
Pas trop affiné, pas trop sec. Jeune et relativement frais. Voilà.
Bon, alors maintenant, il ne faut pas oublier vos aubergines.
Alors, les aubergines, Thierry, fastoche, coupées en deux violettes pour quatre couverts. D'accord. Quatre couverts, d'accord ? Vous les taillez assez finement, en rondelles. Vous allez disposer ces rondelles sur un linge, sur une plaque de four. Salez vos rondelles d'aubergine.
Je ne mets pas de linge dans le four, quand même.
Non, vous allez voir, regardez, non, c'est tout bête. C'est juste pour les disposer. Exactement. Vous allez saler et presser avec une autre plaque pour faire très légèrement dégorger vos aubergines, ok ? Ensuite, vous les rincez, vous les séchez de nouveau délicatement et là,
et
on va les frire.
Elles se délitent pas.
Non, absolument pas. Si vous êtes sur 5 mm d'épaisseur, aucun risque. Le but ensuite, c'est qu'on va les frire délicatement à l'huile d'olive, chaude, pas brûlante, j'insiste. Et ça va très légèrement les faire croustiller. D'accord. Donc une fois que vous avez ça, vous le gardez de côté et vous préparez le reste de la sauce. Deux gousses d'ail pressées, les tomates fraîches, on dit un petit kilo, concassées, sans la peau, classique. Une douzaine de feuilles de basilic, ciselées. Et vous faites tout simplement revenir ça, popoter tranquillement, avec de l'huile d'olive bien sûr, dans la gamelle pendant quoi ? Un quart d'heure, c'est bête et méchant. Sel, poivre, piment d'Espelette si vous voulez. Et là, c'est quasiment terminé puisque vous allez prendre la moitié de vos aubergines frites que vous allez concasser grossièrement. Vous les mettez dans la sauce tomate. Oui. Et puis, vous ajoutez là-dedans maintenant vos pâtes qui sont cuites. Alors, on est bien d'accord ?
Lesquelles pâtes ?
Des penne. Ouais, penne à la norma. Tout basique, hein, Thierry. Vous mettez ensuite, vous mélangez bien et vous dressez ça dans les assiettes. Vous mettez le reste des tranches d'aubergine sur chaque assiette. Quelques petites feuilles de basilic toutes petites pour décorer. Et la fameuse ricotta salata ou le pecorino qui va venir comme ça apporter des notes acides et un petit peu salines en fondant. C'est génial. Il faut savoir que c'est une recette qui est originaire de Catane.
Formidable.
Exactement. Donc on remercie nos amis de Sicile de nous avoir transmis cette recette.
Grâce. Ça a l'air super.
Fabuleuse.
Moi je fais la même chose avec des penne et puis un sac surgelé d'aubergines et de tomates et de. Non mais c'est
il
super.
Il est temps que je m'en aille.
Voilà,
non mais restez, faites pas la gueule.
Non, c'est trop tard. Adieu.
Elle fait ça juste pour vous provoquer, c'est mais.
Vous avez vu que ça marche, Bernard.
Non,
ça marche
à tous les coups. Pour apporter des solutions aux copines et on mange très bien chez Laetitia.
Ah parce que vous êtes invité, c'est la différence, voilà.
Vous êtes déjà venu, Bernard.
Oui,
c'est vrai, c'est
je vous souhaite une très bonne semaine,
Bernard, vous aussi.
À la semaine prochaine.
RTL Matin, 9h53.
Et le pire, c'est que c'est vrai, elle m'a invité à dîner un soir, mais c'était il y a plus de 10 ans, facilement.